Et le journal est présenté par Antoine Geoffin. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au Mali, une attaque meurtrière contre des soldats. Ça s'est passé hier au nord du pays, près de la frontière avec le Niger. Il y a au moins une cinquantaine de victimes. Serge Daniel nous en dira plus.
Et au Mali, toujours l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était il y a 6 ans, ces deux journalistes tués de RFI.
Oui, les familles des victimes dénoncent le silence des autorités. Éclairage de Jeanne Dossé.
Au chapitre des contestations populaires, l'Algérie, Antoine.
Oui, avec cette mobilisation monstre hier dans le pays contre le pouvoir en place et avant les élections présidentielles du 12 décembre, Leïla Berato nous appelle d'Alger. En Russie, la dissolution du mouvement pour les droits de l'homme, une ONG qui lutte pour le respect des libertés individuelles. Claude Brouillot nous en parlera depuis Moscou.
À Monaco, l'avortement est désormais légal.
Et c'est plus subtil que ça. La principauté ne poursuivra plus les femmes monégasques qui y ont recours. Mais l'IVG n'est pas légalisée pour autant. Précision de Pauline Renoir. Enfin, en France, des éleveurs vont porter plainte. Ils estiment que les lignes à haute tension nuisent à leurs bovins. On entendra un agriculteur de la Manche. Votre invité ce matin, Caroline.
Il est islamologue, théologien, philosophe. Il préside la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher. Et notre invité, nous parlerons bien entendu des liens entre la République et l'islam.
Au Mali, au moins 53 soldats sont morts dans une attaque islamiste. Ça s'est passé hier au nord du pays, près de la frontière avec le Niger. Les précisions sur place de Serge Daniel.
Indeliman est une localité malienne du nord située entre deux cercles, Menaka et Ansongo. Sur place se trouve le camp de l'armée malienne visé par les terroristes, selon un communiqué officiel. D'après nos informations, ce sont des obus qui ont dans un premier temps été tirés par les assaillants. Ensuite, par petits groupes, certains à moto, tous armés, ont convergé vers le camp militaire de Indeliman. Le ministre malien de la communication, porte-parole du gouvernement, appelle par ailleurs à l'union sacrée pour réussir, je cite, « la guerre pour la liberté ». Fin de citation, l'attaque n'a pas encore été officiellement revendiquée, mais dans cette zone située non loin de la frontière nigérienne, les groupes djihadistes sont installés. Ils quittent le Niger pour venir commettre des attentats au Mali ou partent du Mali pour attaquer des positions militaires dans d'autres pays voisins.
Au Mali, justement, il y a 6 ans, jour pour jour, Ghislaine Dupont, journaliste, et Claude Verlon, ingénieur du son, étaient tués dans la région des Kidal.
Oui, ils étaient en reportage pour RFI, Radio France Internationale, quelques mois après le début de l'opération Serval, opération militaire française qui devait chasser les djihadistes. Une enquête menée par la rédaction de RFI questionne la version officielle des autorités. Les parties civiles dénoncent, elles, le mutisme de la France sur ce dossier, Jeanne Dossé.
Marie-Solange Poinceau, presque 90 ans, reproche aux autorités françaises de garder le silence et de mentir sur les conditions de la mort de sa fille, Ghislaine Dupont.
Je n'ai aucune certitude sur les dernières heures de vie de ma fille. Et nous mentir, c'est la double peine. Ce qui est terrible à l'heure actuelle, c'est qu'après cette deuxième enquête, personne au gouvernement, à l'armée, ne nous a interpellés, ne nous a donné de réponse. C'est le silence absolu.
Cette deuxième enquête date de juillet dernier. C'est celle de journalistes de la radio RFI qui remettent en cause la version officielle de la mort de leurs collègues. Version selon laquelle Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont morts après une prise d'otage ratée par un groupe djihadiste. RFI affirme de son côté que les forces spéciales françaises pourchassaient les ravisseurs. Marie Dosé est l'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Elle comprend l'impatience des familles.
S'agissant de l'instruction judiciaire, elle se poursuit. Mais vous avez ce pan, effectivement, qu'il va falloir affronter, c'est-à-dire le silence des ministères concernés qui, pour l'instant, refusent de nous éclairer. Donc, est-ce que l'information judiciaire va permettre de répondre à ces questions? Je pense que c'est peut-être d'abord aux autorités politiques concernées de le faire, soit en levant le secret défense sur certaines informations, soit en cessant d'user d'un silence qui, effectivement, peut confiner à un mépris.
6 ans après la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, l'instruction judiciaire se poursuit donc, avec notamment des commissions rogatoires à l'international pour tenter de déterminer avec plus de précision les circonstances de ces décès.
Au moins 10 morts en Somalie, non loin de la frontière éthiopienne. Un bateau a chaviré, surpris par une recrue des eaux. Depuis plusieurs jours, l'Afrique de l'Est est touchée par des pluies torrentielles et la situation pourrait empirer puisqu'on attend de nouvelles précipitations la semaine prochaine. En Algérie, l'autorité indépendante d'organisation des élections doit annoncer aujourd'hui la liste des candidatures à l'élection présidentielle qu'elle a validée parmi les 22 postulants. Élection qui doit avoir lieu le 12 décembre prochain et que dénoncent toujours beaucoup de manifestants. manifestants. Ils étaient des centaines de milliers hier à Alger pour le 1er novembre, jour anniversaire du déclenchement de la guerre pour l'indépendance contre la France. Cette mobilisation très forte pèsera dans la balance quant à l'organisation du scrutin à Alger. Leïla Berato.
Depuis plusieurs semaines, les autorités répètent que l'élection est la seule solution et que ceux qui la contestent ne sont qu'une petite minorité. Hier, dans la capitale comme dans le reste du pays, les manifestants ont été très clairs. Ils rejettent l'élection du 12 décembre. La mise en place d'un panel de dialogue pendant l'été, puis l'installation d'une commission d'organisation des élections dites indépendantes, n'a visiblement pas suffi à donner de la crédibilité au scrutin. Ce vendredi, les niveaux de participation à cette 37e manifestation atteignaient, à Alger comme ailleurs, ceux de mars et d'avril, la période où la contestation était au plus haut. Au mois d'avril puis de juillet, c'est bien la pression de la rue qui avait poussé à l'annulation de l'élection présidentielle. La télévision étatique a occulté les centaines de milliers de manifestants et a préféré diffuser les interviews enregistrées un jour plus tôt lors d'un petit rassemblement en faveur de l'armée. Mais la mobilisation de la rue devrait, une fois de plus, faire évoluer les rapports de force entre les Algériens et les autorités.
Leïla Berato.
Autre manifestation populaire à Hong Kong cette fois.
Marche géante contre le pouvoir prévue aujourd'hui dans le territoire semi-autonome. Certains quartiers ont été interdits par la police qui craint des affrontements avec les manifestants. Ces derniers demandent plus de démocratie et exigent toujours le départ de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. À ce sujet, Pékin a annoncé qu'il en revoyait les règles de désignation. C'était une revendication des manifestants. France Culture 8h07 et la COP25 aura bien lieu du 2 au 13 décembre prochain. C'est simplement le lieu qui change, excite le Chili en proie à des contestations sociales. Le sommet sur le climat se tiendra finalement en Espagne. L'offre du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, de remplacer Santiago par Madrid a été acceptée par le Chili et par l'ONU. Au-delà de l'importance du sommet qui doit renforcer les engagements internationaux, c'est un coup politique du chef du dirigeant socialiste à 10 jours des élections législatives. Mathieu de Taillac à Madrid.
Le maintien de la COP25 grâce à son transfert à Madrid est probablement une bonne chose pour la planète, mais c'est aussi un joli coup politique de Pedro Sanchez, un coup d'éclat international comme il les aime, décidé rapidement en saisissant une opportunité pour afficher au monde entier le symbole de l'une de ses convictions. Après la solidarité humanitaire, quand Sanchez avait accueilli l'Aquarius, après les offensives de charme européistes lors des sommets à Bruxelles, on nous donne à voir l'urgence écologique prise à bras le corps par le dirigeant socialiste. En pleine campagne électorale, Sanchez montre ses réflexes politiques et s'élève un peu au-dessus de la mêlée. Même le maire de Madrid, de droite, est obligé de se dire heureux d'accueillir un tel événement. C'est un succès international pour Sanchez, décidément très à l'aise sur le terrain diplomatique. La question est de savoir si les réussites à l'extérieur importeront aux électeurs, qui ont surtout en commun leur fatigue et leur colère vis-à-vis des responsables politiques incapables de s'entendre entre eux pour gouverner le pays.
Mathieu de Taillac.
La justice russe dissout le mouvement pour les droits de l'homme, l'une des plus anciennes organisations du genre dans le pays.
Cette décision de la Cour suprême de Russie confirme la demande du ministère de la Justice officiellement pour violation des règles administratives. Voilà plus de 20 ans que cette ONG œuvre notamment pour le respect des libertés individuelles. Ces dernières années, elle a dénoncé par exemple le système pénitentiaire russe qui ne combat pas efficacement la torture. Malgré cette mesure d'interdiction judiciaire, les responsables du mouvement sont fermement décidés à poursuivre leurs actions. À Moscou, Claude Bruyot.
Le mouvement pour les droits de l'homme va continuer à travailler et nous allons faire appel de cette décision. Liev Ponomarev, le responsable numéro un de l'organisation dissoute hier par la justice russe, ne désarme pas. Il se fonde pour cela sur le fait que son mouvement, un temps classé agent de l'étranger en 2015, avait pu finalement continuer à fonctionner ensuite pendant 4 ans, avant donc cette nouvelle condamnation, officiellement pour non-respect de protocoles administratifs, selon lesquels une association qui a reçu des subventions publiques ne peut avoir d'activité politique. Un motif qui masque en réalité la volonté du pouvoir décidé à sanctionner notamment Liev Ponomarev, opposant déclaré au Kremlin. Dans une interview au site indépendant Medusa, le directeur du mouvement pour les droits de l'homme indiquait la veille de la dissolution de son organisation par la justice russe que les manifestations d'opposants l'été dernier à Moscou pourraient constituer les prémices d'une révolution démocratique en Russie. Le genre d'annonce qui a pu irriter en haut lieu, alors que chacun s'apprête à commémorer à sa façon le mois prochain les 30 ans de la disparition d'Andrei Sakharov.
Claude Bruyot à Moscou. Il est l'un des survivants de la tuerie de Charlie Hebdo. Le dessinateur sort de son silence près de 5 ans après l'attentat au journal. Dans son livre, 1 minute 49 secondes, il raconte l'attaque meurtrière. Sur France Info hier soir, Rhys a également évoqué la guerre en Syrie et il affiche sa solidarité avec la lettre ouverte publiée hier dans le journal Le Parisien. 44 survivants des attentats du 13 novembre s'indignent de la passivité de la France et de la communauté internationale vis-à-vis des Kurdes. On écoute Rhys.
C'est vrai que sans même avoir été victime d'attentats, je crois que c'est un sentiment que n'importe quel citoyen un peu attaché aux valeurs démocratiques peut avoir à l'égard des Kurdes. C'est vrai que les Kurdes ont donné leur vie pour combattre ce fléau qui est ce terrorisme, qui est ce fascisme représenté par Daesh. Donc on ne les soutient pas suffisamment et quand on se bat contre ce genre de totalitarisme, il faut être solidaire. Voilà, donc c'est une déclaration de solidarité qui est importante. C'est sûr que c'est pas très, c'est pas très glorieux de n'être pas plus reconnaissant et de ne pas plus soutenir ce peuple qui a beaucoup fait pour terrasser Daesh. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Eux ont su le faire et ils méritent mieux que d'être traités comme ça, c'est sûr et certain.
Rhys et une partie de l'équipe de Charlie Hebdo qui seront aujourd'hui à Strasbourg pour le Forum mondial de la démocratie. Direction Monaco à présent, la principauté où le catholicisme est religion d'État et où désormais les femmes qui avortent ne tombent plus sous le coup de la loi. Les élus du Conseil national de la principauté ont voté à l'unanimité jeudi le projet de loi qui dépénalise l'IVG. Jusqu'ici à Monaco, les femmes ayant recours encouraient une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et jusqu'à 18 000 euros d'amende. Mais attention, l'avortement n'est pas légal pour autant, Pauline Renoir.
La principauté n'interdit plus aux monégasques d'avorter, mais elles sont priées de le faire ailleurs parce que leurs médecins n'ont pas le droit de pratiquer l'IVG. Ils risquent 5 à 10 ans de prison. Alors ces femmes se rendent en France, de l'autre côté de la frontière. Claire Moracchini, la coordinatrice du planning familial de Nice, les oriente vers des médecins de confiance.
Si elles veulent le faire, elles peuvent le faire relativement facilement à Nice, à Menton, dans le 06. Mais c'est à leurs frais. Et suivant sur qui elles tombent, il y a énormément de gynécologues dans le 06 qui prennent des dépassements sur cet acte, alors que c'est illégal, hein, puisque c'est pris en charge à 100%. Donc là où une Française ne paierait rien chez un professionnel de santé honnête, les femmes monégasques, si elles tombent chez un gynécologue qui prend des dépassements, elles vont se retrouver à payer 600, 800 euros là où c'est gratuit pour les autres. Donc il y a quelque chose d'assez injuste, toutes les monégasques n'étant pas très riches, loin de là. Hein.
Si avorter n'est plus un crime à Monaco, c'est toujours un tabou entre certains parents et leurs enfants. Le planning familial de Nice reçoit des jeunes femmes enceintes tous les mois, Claire Moracchini.
Il y a de tout, hein. Il peut arriver qu'il y ait des mineurs aussi, auquel cas c'est difficile du coup d'obtenir l'anonymat parce que c'est tout de suite compliqué administrativement. Donc s'il s'agit d'une mineure qui veut pas que ses parents soient au courant, c'est une petite Française, ça va être très facile. Si c'est une petite monégasque ou fille d'assurée monégasque, du coup, ça va être très compliqué. On y arrive en général, hein, mais c'est compliqué.
Modifier la constitution pour légaliser l'avortement n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement monégasque, encore trop attaché aux valeurs de la religion d'État.
Pauline Renoir, en France, plusieurs éleveurs vont porter plainte. Ils mettent en cause l'effet des lignes électriques à haute tension sur leurs élevages bovins. Parmi les membres de l'association des plaignants de l'Orne et un agriculteur de la Manche, Thierry Charuel, lui n'est pas dans la procédure, car son cas a été jugé en 2015. Il a obtenu la condamnation de RTE pour les nuisances liées à la ligne THT très haute tension qui passait à moins de 100 mètres de son élevage, mais son cas pourrait faire jurisprudence. Thierry Charuel.
Août 2012, ils ont coupé la ligne THT pendant un mois. On s'en est aperçu par hasard parce que les vaches, ça allait beaucoup mieux. Le lait était de meilleure qualité. Puis là, c'est pas l'éleveur qui le dit, c'est les laboratoires. On a fait venir des experts qu'on trouve qu'il n'y avait plus du tout de courant dans les tubulures. Donc on a redemandé des rendez-vous à la préfecture. On a été reçu en urgence, alors qu'avant, on ne pouvait jamais être reçu. Et la préfecture a obligé RTE à revenir nous voir. Donc ils ont fait plein d'expertises. Donc effectivement, il y avait une relation de cause à effet. Mais pour eux, ils étaient responsables, mais pas coupables. Les experts qui nous suivaient à l'époque nous disaient « Les vaches ne vont pas aimer quand ils vont remettre le courant. » Et on en a perdu une dizaine à l'automne. Et nous, on a vu ce que c'était qu'une ferme normale pendant un mois. Et quand ils ont remis le courant, on a dit on n'y arrivera jamais, donc on a fait le choix d'arrêter la production avant de faire faillite, quoi.
Le temps de votre samedi, attention, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde en vigilance orange, vent violent avant l'arrivée de la tempête Amélie la nuit prochaine. Le ciel, aujourd'hui, malheureusement, c'est bien gris et pluvieux. Les températures, la minimale ce matin pour Cherbourg avec 12 degrés, la maximale cet après-midi, 20 à Ajaccio.